Alors, tu vas prier pour ce petit moment avant que nous puissions être dans la communion. Nous allons passer un petit moment dans la parole de Dieu, c'est important. Tu vas prier pour que justement je reçoive quelque chose. Que ce soit une semence qui va certainement te faire du bien. Prions le Seigneur, notre Père, notre Dieu. Nous voulons te prier pour ces petits moments de partage de ta parole, afin que tu nous instruises, afin que tu nous fasses encore du bien, afin que tu nous encourages, afin que tu nous fortifies. Seigneur, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Éternel, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de ta parole. Seigneur, suscite, encourage-nous encore ce matin pour la seule gloire de toi-même. Bénis ces moments, bénis ces instants, bénis chacun ici présent, et encore une fois, parle Seigneur, tes serviteurs, écoute, pour la seule gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons ainsi prié. Et ensemble, on peut dire Amen.
Amen.
Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis ce matin pour votre présence, pour votre besoin justement d'être édifié par le Seigneur. Je vais ce matin, en quelques mots, nous parler de la Nouvelle Alliance. De la Nouvelle Alliance. Et j'aimerais dire justement, lorsque nous parlons d'alliance, c'est tout simplement, nous faisons allusion à la nouvelle relation que Dieu veut entretenir avec les hommes. Parce que lorsque nous parlons de Jésus, on ne peut pas ne pas faire allusion à l'alliance. Jésus-Christ, parler de Jésus, c'est parler de l'alliance. Il est venu apporter une alliance qui est nouvelle. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui, cela se passe autour justement de cette alliance. Donc je dis que l'alliance, c'est la relation que Dieu entreprend avec l'humanité. Et donc quand nous parlons d'une nouvelle alliance, ça veut donc dire qu'il y avait eu une ancienne alliance. Et la première alliance, ou bien l'ancienne alliance, elle reposait, si vous voulez, sur deux choses. Mais elle est résumée en une chose. Deux choses ont caractérisé l'ancienne alliance, mais elle est résumée par une seule chose. Les deux choses dont je parle ici, c'est tout simplement l'homme dans l'ancienne alliance. Tout le monde n'a pas la possibilité de se rapprocher de Dieu. Dans l'ancienne alliance, tout le monde ne peut pas s'approcher de Dieu. Dans l'ancienne alliance, tout le monde ne peut pas parler à Dieu. Et l'ancienne alliance est caractérisée par la justification à travers les œuvres de la loi. Bien que Dieu savait que l'homme ne pourrait pas être justifié, l'homme ne pourrait pas accomplir la loi, mais l'ancienne alliance qui commence avec Moïse. Parce qu'il faut faire la différence entre l'ancienne alliance et l'Ancien Testament. L'ancienne alliance commence avec Moïse au Sinaï. Parce qu'il reçoit la loi. L'Ancien Testament, mais c'est tout ce qu'il y a qui commence la Genèse et tout ça là. Mais l'ancienne alliance commence avec Moïse. Et cette alliance qui commence avec Moïse est caractérisée justement par le principe de la loi. La loi qui amène les hommes à pouvoir être justifiés à travers des œuvres. Ça, c'est l'ancienne alliance. Et dans la nouvelle alliance, puisque c'est vraiment un condensé ce que je vais vous donner ce matin, dans la nouvelle alliance également caractérisée par quatre choses, mais résumée en une seule chose. Et quatre choses qui caractérisent la nouvelle alliance, c'est contrairement à l'ancienne alliance, l'homme cette fois-ci est justifié non pas par les œuvres de la loi, mais l'homme est justifié par sa foi dans l'œuvre de Christ à la croix. C'est la justification de l'homme par sa foi, mais dans l'œuvre de Christ. Ce n'est pas comme dans l'ancienne alliance où l'homme trouve sa justification en faisant des œuvres, les œuvres de la loi. Mais dans la nouvelle alliance, l'homme trouve sa justification par sa foi, mais dans l'œuvre que Christ accomplit à la croix. Première chose. Deuxième chose, nous avons dans la nouvelle alliance ce que nous appelons la grâce. Et en réalité, c'est la grâce qui résume tout ça. C'est la grâce qui est manifestée. Parce qu'en réalité, l'homme qui sort de l'ancienne alliance est un homme qui vient vers Dieu dans un état de condamnation. L'ancienne alliance amène les hommes coupables devant Dieu, loin de la faveur divine. Et Dieu, dans la nouvelle alliance, il donne la grâce. La grâce n'est disponible de façon officielle, je dis même de façon officielle, la grâce n'est disponible que dans la nouvelle alliance par Jésus-Christ, mais de façon officieuse, toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, il y a la grâce de Dieu. Mais de façon officielle, la grâce est manifestée, incarnée par un homme, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Et la troisième des choses de la nouvelle alliance, c'est qu'elle rend possible la nouvelle naissance. C'est quoi la nouvelle naissance? Ben, c'est la capacité, c'est la possibilité que Dieu donne de nouveau aux hommes de pouvoir avoir en eux la vie divine. Nouvelle naissance nous introduit dans une nouvelle vie avec Dieu. Une nouvelle relation, une nouvelle identité, une nouvelle position. Nous entrons dans une nouvelle famille, parce que Dieu traite avec un peuple. La nouvelle naissance nous introduit de façon officielle dans la famille de Dieu. Et Dieu traite avec un peuple. Il a toujours fonctionné de cette manière. Il se choisit des hommes, mais pour former un peuple avec qui il va traiter, il va marcher en alliance. Nouvelle alliance, c'est la même chose. Dieu veut un peuple et ce peuple-là porte son nom, ce peuple-là est sorti de lui-même. C'est pourquoi dans Jean 1, verset 12 à 13, on dit que ceux qui ont cru, ceux qui ont reçu la parole de Dieu, ils sont devenus bien sûr enfants de Dieu, mais lesquels sont nés non pas de la volonté de l'homme, ni de la chair et du sang, mais de la volonté de Dieu. Ils sont nés de Dieu. C'est une naissance qui vient de Dieu, suscitée par Dieu lui-même, mais en réponse à notre foi. Parce que nous avons manifesté la foi dans l'œuvre que Jésus a accomplie, alors nous entrons dans une nouvelle vie, dans une nouvelle naissance. Et dans cette nouvelle naissance, elle est importante parce qu'elle nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu et il ne peut pas être en communion avec Dieu. Et c'est pourquoi la quatrième chose que la nouvelle alliance nous apporte, c'est justement la communion divine. Et c'est de ça dont nous allons parler, parce que tout à l'heure, on va être dans la dimension de la communion, mais notre communion. Mais je parle ici de la communion divine qui est quelque chose de très, très important et nous devons cela à la nouvelle alliance. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 2, la communion divine. Éphésiens chapitre 2, verset 12. Nous avons la communion divine. C'est-à-dire, quand je parle de communion divine ici, c'est tout simplement cette équation. À travers la communion, l'homme peut de nouveau s'approcher de Dieu, d'une part, et d'autre part, l'homme peut parler à Dieu. Parce que, avant, dans l'ancienne alliance, l'homme ne pouvait pas s'approcher de Dieu, et l'homme ne pouvait pas parler à Dieu si ce n'est que des personnes que Dieu lui-même avait choisies. Sinon, de façon générale, tout le monde ne pouvait pas s'approcher de Dieu, tout le monde ne pouvait pas communier avec Dieu. Éphésiens chapitre 2, 12. Si quelqu'un l'a trouvé, il peut lire la parole du Seigneur. 12. Parce que j'ai la version ici, parole de vie, qui n'est pas parole vivante, ici c'est parole de vie. Mais je... Oui.
Souvenez-vous qu'à cette époque, lorsque vous vivez sans le Christ, vous n'aviez aucune part au droit du peuple élu de Dieu. Mm-hmm. Vous étiez tenu à l'écart des alliances basées sur les promesses mm-hmm. faites à Israël. Vous n'aviez donc rien à attendre de l'avenir, aucun moyen d'accéder auprès de Dieu. Mm-hmm. Vous viviez sans espérance et sans but en ce monde. Mm.
Vas-y jusqu'au verset 17, vas-y.
Mais maintenant, par votre union avec Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois les éloignés, vous êtes devenus des proches parce que le Christ a versé son sang pour nous, il a introduit avec nous dans la sphère de l'amour de Dieu. Il est lui-même notre paix. N'a-t-il pas rassemblé les deux fractions séparées de l'humanité pour en faire une unité nouvelle? Autrefois, un mur infranchissable, c'est-à-dire la loi, nous divisait en deux camps opposés. Ce mur a été abattu par le Christ qui a mis fin aux hostilités. Par sa mort, il a abrogé pour toujours la loi de Moïse avec tout son code de règles et d'ordonnances. Il a recréé en lui-même une nouvelle humanité dans les deux peuples, juifs et non-juifs en un seul. En s'incorporant ces deux parties opposées, il a ramené la paix. Par sa croix, il a donné le coup de grâce à leur inimitié. Il les a réconciliés tous deux avec Dieu et les a réunis en un seul corps.
Amen. Vous voyez qu'à travers cette lecture, nous voyons très bien que autrefois nous étions sans Dieu, autrefois nous n'étions pas proches de Dieu, mais à travers l'œuvre de Christ, à travers le sang de Jésus, nous avons été rapprochés de Dieu. C'est Christ par son sang qui nous rapproche de Dieu. Et donc, rapprocher de Dieu, c'est nous permettre d'être en communion avec Dieu. Luc 23, verset 44. Luc 23, verset 44. Nous parle de la mort de Jésus, c'est-à-dire ce qui s'est passé entre 12h et 15h. Luc 23, 44 à 45. Quand il est presque midi, le soleil s'arrête de briller. Dans tout le pays, il fait nuit jusqu'à 3h de l'après-midi. Le rideau qui est dans le temple se déchire au milieu en deux morceaux. Jésus pousse un grand cri, il dit « Père, je remets ma vie dans tes mains. » Voilà ce passage qui nous révèle ce qui s'est passé justement à midi. Entre midi et 15h, pendant 3h. Vous vous rendez compte que ça se passe à midi, là où le soleil est censé être à son zénith. Là où le soleil est censé être à son zénith, mais à la place va s'installer les ténèbres. Parce que pendant ces 3h, des choses très profondes et spirituelles vont se produire. C'est pourquoi lorsqu'on parle de l'œuvre de la croix de Jésus, ça va au-delà justement de cette crucifixion physique corporelle du Christ sur la croix. Parce que sur le plan spirituel, des choses se sont passées. Parce qu'on ne peut pas expliquer qu'à midi, que tout devient sombre pendant 3h. Et vous savez que notre Dieu, il marche avec le chiffre 3. Pendant 3h, obscurité totale. Mais pendant ces 3h, qu'est-ce qui va se passer? Mais le temple, symbole de la présence de Dieu, symbole même de l'identité même nationale d'Israël, symbole même de l'adoration. Le temple, quelque chose va se passer dans le temple. Et il faut se poser la question, mais pourquoi cette chose va se passer dans le temple? Parce que le temple, c'était le temple d'Israël. C'était la fierté nationale de ce peuple. Mais pendant cette période de 12h à 15h, la Bible déclare que le voile du temple va être déchiré en deux. Alors que ce fameux voile mettait la séparation entre là où il y avait la présence de Dieu dans le Saint des Saints et puis le reste du peuple et le reste des serviteurs. Dieu déchire le voile grâce à l'œuvre de Jésus pour permettre justement à ce que toute l'humanité retrouve cette communion avec Dieu. C'est-à-dire, plus de protocole. D'où Dieu revient finalement, Dieu restaure par Jésus-Christ son désir, sa volonté qu'il avait depuis le commencement à Éden. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a commencé à parler avec l'homme. Dieu est un être communicatif. Il a créé l'homme. Et Dieu commence à discuter avec cet homme. Il lui parle. Et finalement, lorsque Adam et Ève vont désobéir à Dieu, la Bible dit que le soir, Dieu vient visiter l'homme parce qu'il avait l'habitude de rencontrer l'homme à Éden. Et là, Dieu vient encore, il parle avec l'homme. Vous voyez, donc, Dieu nous a créés pour que nous soyons en communion avec lui. Mais dans la communion, il y a deux choses, comme j'ai évoqué tout à l'heure. Il y a la communication, mais il y a aussi la présence. Or, lors de la chute,
L'homme a perdu la présence de Dieu, la gloire de Dieu, et l'homme ne peut plus parler à Dieu, même s'il parlait, Dieu ne va pas l'entendre, Dieu n'écoute pas la prière d'un pécheur. Comprenez? Donc, Dieu restaure par Jésus-Christ la communion, ce qui était au commencement. Et vous allez voir que avant la chute, donc Dieu il communique avec l'homme. Maintenant, après la chute, qu'est-ce que nous voyons? Mais après la chute, nous voyons que finalement, Dieu commence à fixer certaines règles pour permettre aux gens de s'approcher de lui ou bien de l'adorer. Et c'est là que vous voyez le cas d'Abel et de Caïn. Là commence le culte. Ils sont là, ils viennent apporter l'offrande. Caïn aussi apporte son offrande. Mais Dieu refuse l'offrande de Caïn, mais il accepte l'offrande d'Abel. Et c'est à travers le sacrifice, le sang, parce que c'est ça le principe de Dieu, il faut que le sang soit versé. Que Dieu accepte le sacrifice d'Abel et finalement, de façon indirecte, il met en place un système d'adoration à travers le sang, le sacrifice d'un animal, une offrande d'animal. Et ça commence avec Abel. Dieu met en place les principes. Tu veux t'approcher de moi? Avant, tu t'approchais de moi sans protocole. Je venais à toi sans protocole. Maintenant, je mets en place le protocole. Je mets en place les intermédiaires. Je mets en place les moyens qui te rapprocheront de moi. Et après, avec Caïn, nous avons Noé. Dieu, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il ne parle plus avec tout le monde. Parce qu'avant, il parlait avec Adam. Maintenant, il se choisit des personnes. Tu choisis Noé. Et Dieu commence à parler avec Noé. Et Dieu, en choisissant Noé, Dieu choisit des personnes avec qui il va être en communion. Et en même temps, Dieu va encourager finalement ces personnes-là à continuer ce que Abel avait commencé, l'offrande, l'adoration à travers le sacrifice. C'est pourquoi, après le déluge, Noé sort tout de suite l'offrande, l'adoration, le sacrifice, les autels, les holocaustes, toutes ces choses se mettent en place. Donc Dieu choisit les hommes. Après, qu'est-ce qui se passe? Nous avons dans le cœur de l'homme, puisque l'homme a été créé pour être en communion avec Dieu. Dieu est la source. Parce que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dans le cœur de l'homme, il y a toujours ce désir-là d'être proche de la divinité. Il y a ce désir-là de comprendre ce qui se passe de l'autre côté. L'au-delà, le monde des esprits. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Alors, dans le chapitre 11 de Genèse, nous avons ici la première création humaine pour pouvoir se rapprocher de Dieu, la religion de Babel. Babylone s'installe. La tour de Babel se met en place. Pourquoi? Parce que les hommes veulent se rapprocher de Dieu. Ils veulent comprendre ce qui se passe de l'autre côté. Ils construisent par leurs efforts un moyen qui va leur permettre d'atteindre, de toucher Dieu. Il y a ce besoin-là de l'homme, de chercher Dieu. Et c'est à partir de là, l'esprit de Babel, après la dispersion de ce peuple, l'esprit de Babel s'est répandu sur la terre et c'est ce qui a justifié toutes les religions qui se mettent en place. Ce besoin-là de créer, de fabriquer des moyens d'atteindre Dieu et par nos propres efforts. L'homme crée la religion. La religion n'est pas une idée de Dieu. La religion n'est pas la pensée de Dieu. Elle vient de l'homme. Et c'est ce qui se passe dans Genèse chapitre 11. Ils mettent en place un moyen pour toujours pour pouvoir se rapprocher de Dieu. C'est ça, la religion. Chapitre 12, Dieu choisit encore un homme. Et là, à travers cet homme-là, Dieu veut faire entrer l'humanité justement à travers cette nouvelle alliance. Dieu choisit Abraham. Et à travers Abraham, Dieu veut se former un peuple. Et c'est là justement qu'à travers le peuple issu d'Abraham, Israël, que Dieu va mettre en place avec Moïse l'ancienne alliance, avec la loi et toutes ces prescriptions qui vont permettre aux enfants d'Israël d'adorer Dieu, de se rapprocher de Dieu et de communiquer avec Dieu. Vous voyez toujours qu'il y a ce besoin de l'homme et même de Dieu directement, que l'homme soit proche de lui. Que l'homme puisse être en communion avec Dieu. Donc c'est ce qui se passe. C'est pourquoi Jésus-Christ, il arrive finalement et il restaure. Il restaure cette communion divine. C'est-à-dire que Sa sœur permet de passer par plusieurs chemins. Vous avez été créé pour être avec Dieu, c'est vrai. Mais le chemin que vous avez, que vous vous êtes donné, les différents chemins de la religion, ne sont pas les bons chemins. C'est pourquoi Jésus, il arrive, je suis le chemin. Il est le chemin. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Donc, vous voulez vous rapprocher de Dieu? Passez par moi qui suis le chemin. Je suis le chemin. Donc, toute approche de Dieu en dehors de Jésus n'est pas le bon chemin. Vous allez rencontrer un autre esprit, mais en tout cas pas l'esprit de Dieu. Mais c'est en passant par Jésus que nous allons rencontrer notre Père qui est dans les cieux. Amen. Donc, ça c'est important que nous puissions le savoir. Et je vais terminer justement par rapport justement à cette histoire de communion. Donc, Jésus-Christ par son sacrifice, on l'a lu dans Éphésiens, il nous a rapprochés. Il nous a rapprochés. Maintenant, comment dit, parce que c'est un pacte, tellement cette communion. C'est un pacte complet. Il y a la présence de Dieu et il y a la communication avec Dieu. Maintenant, comment on peut vivre cela? Et tout simplement par la foi en Jésus-Christ. Et cette foi-là doit s'exprimer par un acte, l'acte de la repentance. J'ai la foi, je crois que Jésus est mort pour mes péchés et je prends une décision. Je vais me repentir. C'est pas la repentance. La repentance. La repentance. C'est la repentance qui va valider toutes ces choses-là. La foi, mais la repentance. Parce que le pacte, il est disponible, mais pour le prendre, la foi. À la foi, mais pas seulement la foi, il faut manifester cette foi-là par notre repentance. On se répand. On est touché, un peu comme à la Pentecôte, ils ont entendu le message, ils ont été touchés, mais ce n'était pas suffisant. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ont manifesté une certaine foi. On fait comment? Il dit, bon, maintenant, repentez-vous. Soyez baptisés. Pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don de Dieu. Saint-Esprit. Donc, cette fameuse repentance, nous tous qui sommes passés par là, je tiens tout simplement à nous rappeler les étapes de la repentance. Elle commence par la prise de conscience. Prise de conscience de notre état. La repentance, ce n'est pas la confession. La confession fait partie de la repentance. Mais la repentance commence par une prise de conscience de son état. Parce que le Saint-Esprit, qui travaille avec la parole de Dieu, doit convaincre de péché, de justice et de jugement. Prendre conscience de ton état de péché, prendre conscience que tu as longtemps vécu loin de la justice de Dieu, une vie injuste, et prendre conscience qu'à travers justement la parole de Dieu, face à toute cette injustice, il y a un jugement de Dieu sur ta vie. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est d'abord la première étape. Il faut qu'il y ait cette prise de conscience par rapport à ton état de façon générale pour pouvoir crier ta détresse vers Dieu. Après cette prise de conscience, il y a ce qu'on appelle la prise de décision. Tu prends une décision. Face à tout ça, je fais quoi? Je reste dans mon état avec sur ma vie la colère de Dieu? Ou bien je décide de me réconcilier avec Dieu. Prise de décision. Je dois prendre une décision de renoncer à mon ancienne vie. Prise de décision. Troisième chose, c'est à ce moment-là que si j'ai pris vraiment la décision, que je peux commencer à confesser maintenant mes péchés. Je vais confesser. Je confesse mes péchés. Oui, Seigneur, je te demande pardon pour ces péchés que j'ai faits. J'étais déshonoré, j'étais pas honoré, j'ai fait mal à ton cœur, j'ai pas marché dans ta justice. Seigneur, pardonne-moi. Et après la confession, il y a ce qu'on appelle la séparation. Confesser, c'est une chose, mais après, il faut poser un acte, il faut se séparer des choses qui n'ont pas dû commencer, en tout cas, à se séparer. Hein. En tout cas, en d'autres termes, ça veut dire qu'il faut commencer à faire le ménage. Il faut commencer à faire le ménage dans ta vie. Tu ne peux pas confesser à Dieu et tu restes dans la même situation, dans la même position et tu poses même pas les premiers actes qui montrent à Dieu que tu veux réellement vivre pour lui. Commence à faire le ménage. Dans ta vie, tu commences à balayer tout ce qui ne glorifie pas Dieu, tout ce qui n'honore pas le Seigneur. Tu commences à nettoyer et enfin, parce que ce ménage-là, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Hein. Tu te sépares de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Et enfin, plus tu vas commencer à te sanctifier, à te séparer, ben tu dois aboutir à la consécration. Parce que la consécration, c'est le fruit de la repentance. C'est-à-dire, c'est une vie qui est dédiée à Dieu. Tu as dédié ta vie à Dieu. C'est un résultat. On ne peut pas dire qu'on s'est repenti et puis notre vie n'est pas consacrée à Dieu. Cela ne veut pas dire qu'on est parfait. Mais je suis en train de dire que notre vie doit être consacrée à Dieu, une vie dédiée à Dieu. Une vie où tu es en train de tout faire pour te conformer à la parole de Dieu. C'est ça la consécration. Tu as dédié ta vie comme une offrande. Et maintenant, chaque jour, tu apprends par la grâce de Dieu à marcher selon la parole de Dieu. Et là, tu vas accomplir la vraie repentance. Ce n'est pas seulement « Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché » comme souvent nous l'avons fait. Mais c'est bien plus qu'une simple confession, mais ça commence d'abord par une prise de conscience. Donc voilà, donc la nouvelle naissance nous a donné ce beau cadeau, c'est-à-dire cette nouvelle opportunité de pouvoir être en communion avec Dieu, de pouvoir bénéficier de sa présence, mais également de pouvoir communiquer avec Dieu. C'est ce que nous appelons la prière. Nous pouvons communiquer avec Dieu. Et ça, ce n'est possible que par Jésus-Christ, à travers le sacrifice qu'il a accompli à la croix et à travers le sang qu'il a mis en place justement à la croix, la nouvelle alliance qui commence effectivement à Golgotha. L'ancienne alliance commence, c'est pourquoi les deux alliances commencent sur une montagne. L'ancienne alliance commence sur la montagne du Sinaï, avec la loi de Moïse. La nouvelle alliance commence sur une autre montagne appelée Golgotha, à travers le sacrifice de Jésus, à travers le sang de Jésus. Et ça, c'est important pour nous de le savoir. Donc c'est ce que je tenais quand même à vous partager, à nous rappeler que nous sommes des graciés de Dieu. Parce que nous avons aujourd'hui, par Jésus-Christ, la communion. Mais cette communion, elle va au-delà. Il y a la communion. C'est pourquoi il y a la communion avec Dieu. Mais il y a aussi la communion avec les frères, ceux de la famille de Dieu. Et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui pour ce culte un peu particulier. C'est pour vivre également cette communion fraternelle. Parce qu'il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de séparation. En Jésus-Christ, nous sommes devenus un. Et c'était ça le projet de Dieu. Faire de toutes les nations un seul peuple. Qu'on appelle l'Église, l'Ecclésia, juifs, grecs, tout le reste, l'Ecclésia, un seul peuple, plus de séparation, plus de barrières, ensemble en Christ. Et c'est pourquoi on ne peut pas dire qu'on est en communion avec Dieu et ne pas être en communion avec les frères. Et nous avons voulu manifester notre communion avec Dieu par cette communion fraternelle en cette journée. Donc on va prier le Seigneur et nous allons rendre grâce à Dieu pour cette opportunité que Jésus nous a donnée de pouvoir être en communion avec lui. C'est tout ce que j'ai dit. Chacun de nous se retrouve, chacun parle à son Dieu, chacun se positionne par rapport à son Dieu. Seigneur, merci pour la communion. Si tu n'es pas dans la vraie communion, tu dis tout simplement à ton Dieu, ben, comme j'ai parlé de la repentance tout à l'heure, ben, tu dois prendre des décisions, tu dois réfléchir par rapport à ta vie, parce que mon frère, ma soeur, Jésus revient bientôt. Et de plus en plus, notre vie doit être en règle avec le Seigneur. Donc, si tu t'es jamais repenti, ben, c'est l'occasion pour toi aujourd'hui de vraiment, encore une fois, réfléchir sérieusement sur ta vie, parce que le Seigneur est à la porte et il revient bientôt. Mais nous bénissons Dieu pour ceux qui ont saisi par la foi cette grâce de Dieu, la communion que nous avons en Dieu, cette communion divine. Donc j'aimerais quand même que nous puissions prier pour cela. Et en même temps, je vais prier pour ouvrir les hostilités de cette communion fraternelle. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, j'aimerais te bénir encore une fois pour l'œuvre salvatrice de Golgotha. À travers cette œuvre, tu es venu restaurer la communion divine, permettre à l'homme de s'approcher de nouveau de Dieu, permettre à l'homme de pouvoir de nouveau parler avec Dieu, sans passer par des intermédiaires, sans passer par un protocole, sans passer par des rituels liés à la religion. Mais tu es venu véritablement établir la relation entre toi et nous, à travers la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci pour ce don merveilleux. Merci pour cette grâce. Merci pour le voile qui a été déchiré. Merci pour l'accessibilité à ton saint trône. Ta parole me dit de nous approcher de ton trône avec assurance. Tu nous as donné accès, quels que soient nos titres, quels que soient nos diplômes, notre situation familiale. Tu as dit que nous avons accès à ta présence, accès à ton trône. Merci Seigneur pour cela. Vraiment, c'est une grâce que nous voulons ce matin prendre le temps d'apprécier encore une fois, de considérer encore cette grâce, notre Père, notre Dieu. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te sommes infiniment reconnaissants, nous avons prié ainsi. Également, nous voulons te recommander ces moments de partage, de communion fraternelle, de fraction de pain, Seigneur, en nous inspirant de l'Église primitive qui, chaque jour, Seigneur, ils étaient ensemble, ils rompaient le pain ensemble, ils mangeaient ensemble, pour favoriser encore une fois cette unité de l'Esprit. Seigneur, béni soit ces instants, béni soit tout ce qui va être mangé en ces lieux. Béni soit toutes les sources qui ont pourvu, béni soit toutes les mains qui ont préparé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la louange te revienne à toi seul. Et c'est dans le beau et précieux nom de celui qui était, de celui qui est parmi nous et de celui qui revient bientôt, notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié et nous pouvons tous se dire Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc on peut commencer les hostilités, les moments de communion. Donc soyez libres dans la maison du Seigneur, ne soyez pas coincés, saluons-nous, faisons connaissance jusqu'à ce qu'on nous apprête tout ce qu'il faut pour que nous puissions manger ensemble. Que Dieu nous bénisse encore une fois. Maintenant là, on fait tout, hein? D'accord, vas-y. Et le reste, alors.
Alléluia. Restez tous bénis. Et merci encore.